L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h du lundi au vendredi. Une émission à plumes et à bec, en compagnie de Bretagne vivante. Nous allons plutôt au bord de la baie d'Audierne, car notre invité connaît bien ce territoire. C'est un véritable havre pour les migrants à plumes donc, les oiseaux migrateurs. Beaucoup font escale chez nous ou bien s'installent pendant une saison. Ils sont même suivis à la station de bagages, où ceux qui sont attrapés sont donc munis de bagues. Ceux qui ont déjà une bague sont recensés. Notre invité est ornithologue. La baie d'Audierne est son terrain d'observation privilégié. Il s'appelle Bernard Treberne. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors, quand peut-on voir les oiseaux migrateurs en baie d'Audierne, déjà pour commencer ?
Ah ben, les oiseaux migrateurs, de façon générale, ils migrent deux fois par an. Ils ont leur migration avant la reproduction, qui est au printemps. Et là, ils regagnent leur zone de nidification, leur zone de reproduction. Et ensuite, quand le temps devient un petit peu trop mauvais, il y a la migration d'automne qui dure beaucoup plus longtemps et qui est le trajet inverse où ils regagnent leur zone d'hivernage.
Donc la migration d'automne, elle commence dès septembre, enfin, c'est ça.
C'est vrai que printemps et automne ne correspondent pas tout à fait à notre calendrier à nous, parce que leur automne à eux, la migration qu'on préfère appeler post-nuptiale, mais qu'on dit toujours d'automne, elle commence à la mi-juillet. Quoi.
Ah oui,
commence à la mi-juillet, elle va jusqu'à la mi-novembre, donc c'est un automne assez long.
Alors évidemment, il y a les oiseaux qui vont faire... Juste une escale chez nous, c'est ça ? Enfin, ils vont se reposer, en gros.
Oui.
Alors, c'est quoi, par exemple, ces oiseaux-là ?
Ah, les oiseaux qui font une escale, on pense... on pense aux grands migrateurs, même si on n'est pas, nous, sur le trajet des grands migrateurs, comme les grues ou les oies. Mais donc, il y a pas mal d'oiseaux qui ont niché plus au nord et qui vont, par exemple, en Afrique de l'Ouest et qui passent par chez nous. Donc ceux-là, c'est beaucoup de passereaux, par exemple, qui suivent le long des côtes et qui vont s'arrêter. Donc là, ils vont trouver des zones pour se reposer, pour s'alimenter, comme la baie d'Audierne, par exemple. Et donc ces oiseaux-là, y a énormément, on peut citer des... Parliez de la station de bagages de Trinvel, on attrape beaucoup, nous, de phragmites-déjons. Alors, ce ne sont pas forcément des noms que tout le monde connaît. Des phragmites-déjons, des rousserolles effarvates, des locustelles, des choses comme ça.
C'est toujours des noms très poétiques, je trouve.
Oui, oui, oui. Et,
ils sont petits, ces oiseaux-là. Enfin,
oui, ce sont des petits passereaux. Globalement, ce sont des tailles de la fauvette, du moineau, un petit peu. Donc, beaucoup ces oiseaux-là. Après, il y en a aussi des plus gros, des râles d'eau, des martins pêcheurs, voire même des encore plus gros, comme les canards par exemple.
Et alors, ils mangent évidemment pas tous la même chose, ils se nourrissent de quoi
Alors sur la baie d'Audierne, parce qu'évidemment ça va dépendre du groupe d'oiseaux, un oiseau de mer ne mange pas exactement la même chose qu'un phragmite-déjon qui s'arrête en baie d'Audierne pour faire une halte migratoire, il mange ces petits passereaux au moins, mangent surtout des insectes. Et donc, comme à la fin de l'été, donc on a des pics d'insectes, normalement, il y a énormément de pucerons, par exemple, sur les roseaux à une certaine époque, qui correspond à l'époque de la migration, et les oiseaux vont donc s'engraisser et prendre plusieurs grammes de graisse par jour pour qui est leur carburant pour les migrations futures.
Parce que le phragmite, il va en Afrique, c'est ça ?
Oui, c'est un oiseau qui niche dans l'Europe de l'Ouest, du Nord aussi, les îles Britanniques, etc. Et donc, il va hiverner en Afrique de l'Ouest.
Ce qui lui fait un bon trajet et il a besoin d'une bonne dose d'énergie pour effectuer ce voyage. En combien de temps ils font ce voyage, en gros ?
Ça, c'est variable selon l'âge. Donc, ceux qui migrent le plus tôt, on le voit bien à la station, ce sont les adultes. Les premiers à passer, donc à partir de juillet, sont les adultes qui ont déjà un peu l'habitude, puisqu'ils ont déjà fait ce voyage-là. Et donc, ils vont plus vite, ils font des haltes qui sont beaucoup plus courtes à la limite, ils se nourrissent mieux et ils font d'une halte à l'autre des trajets qui sont plus longs. Alors que les jeunes, bah, ils apprennent, ils traînent en route, ils font des petits sauts de puce comme ça, d'une zone humide à l'autre. Et donc c'est très variable suivant l'âge déjà des oiseaux.
Et quand on dit très variable, c'est quoi? C'est entre 2 semaines et 2 mois, non? Quand même
ouais,
pas.
Non, c'est quelques jours quand même.
Ah ouais.
Bah, ils ont quand même énormément de kilomètres à faire. Donc s'ils s'arrêtent 2 mois par-ci, 2 mois par-là,
l'ensemble du voyage, dure quoi? Combien de temps à peu près, entre combien et combien, on va dire?
Ça, on peut compter effectivement 2 mois à peu près, par exemple. Oui.
Ah oui. Et les phragmites, par exemple, est-ce qu'ils voyagent? Donc, ils voyagent pas en groupe, d'après ce qu'on... On entend, d'après ce que vous nous dites, ils voyagent.
Ils voyagent quand même en petits groupes. Ils voyagent de nuit en suivant les côtes. C'est pour ça qu'ils viennent jusqu'à chez nous. Hein. Donc ils suivent les côtes et ils voyagent en petites troupes, on peut dire. Quoi. Alors individuellement, évidemment, on ne les voit pas migrer de nuit. Donc on ne sait pas si c'est des troupes serrées ou si c'est assez diffus. Mais on voit que quand les conditions météo sont favorables, qu'il y a des arrivages comme ça, on voit quand même qu'il y a qui sont assez nombreux à arriver d'un jour sur l'autre, oui.
C'est quoi les conditions météo favorables alors pour les regarder?
C'est un vent porteur, donc un vent un petit peu d'est, nord-est. Voilà, donc c'est pas trop de pluie, un ciel dégagé pour qu'ils puissent migrer en se servant aussi des étoiles. Et voilà, donc ça, ce sont les conditions.
Ils se servent des étoiles vraiment?
Oui, alors suivant les
qu'est-ce
espèces.
Qu'est-ce qu'on sait de leur orientation?
Oui,
leur technique d'orientation, c'est toujours fascinant.
Oui, c'est fascinant. C'est pas ma spécialité, moi, mais effectivement, ils utilisent un certain nombre de plusieurs critères, plusieurs facteurs peuvent intervenir. C'est-à-dire, on sait bien que certains s'orientent à partir des étoiles. Ils s'orientent aussi avec une espèce de mémoire qu'ils ont, une mémoire un peu collective ou individuelle. Après qu'ils apprennent à chaque fois, ils reconnaissent un petit peu le profil des côtes ou ils savent où s'arrêter. Si ça marchait une fois, sans doute qu'ils s'arrêtent encore après. Donc il y a sûrement aussi un apprentissage au cours de la vie.
Ah oui, une transmission, quoi, vraiment.
Oui.
L'école de la migration. Et il n'y a pas l'espèce de boussole magnétique
oui,
dont
aussi,
on parle.
Oui, donc ça aussi, y a plusieurs expériences qui ont montré effectivement que si on lâchait des oiseaux à un endroit où ils ne devraient pas être, ils partent dans une direction qui n'est pas celle qu'il faudrait pour arriver sur les zones d'hivernage, par exemple. Oui, donc il y a aussi une espèce de boussole. Mais bon, ça, j'avoue que... À part avoir lu certaines choses, c'est pas ma spécialité.
Et quels sont ceux qui ne migrent que en formation? Enfin, si ça existe, hein, s'il y a des oiseaux qui ne migrent.
On voit on pense tout de suite à la migration des oies, des grues, par exemple. Alors, bon, chez nous, elles n'y viennent pas parce qu'elles font des grands trajets et puis on n'est pas sur leur voie migratoire. Elles ne vont pas s'embêter à aller jusqu'au bout de la Bretagne là, pour passer. Donc, elles passent sur le continent et traditionnellement, elles sont effectivement... Surtout les oies et les grues sont en formation, les cigognes aussi. Donc Mais je pense que pour les passereaux, c'est plus de la migration, un peu chacun pour soi, comme on peut.
Ouais.
Et voilà. On voit aussi passer les oiseaux de mer ici, à la pointe bretonne quand même, qui migrent aussi. Et donc là, pareil, suivant les jours, on va avoir des bandes. Alors ils ne passent pas en grande bande, mais ils passent 2 par-ci, 3 par-là, 5 après, un tout seul. Voilà. Mais sur des flux qui sont assez réguliers.
Ah oui, par exemple, qu'est-ce que c'est comme espèce?
Alors, les oiseaux de mer qu'on a la chance de voir passer en pointe bretonne, hein, donc il y a les puffins essentiellement, hein, différents types de puffins, des labes, des océanites, des mouettes tridactyles, des mouettes de Sabine, enfin tout un tas de choses comme ça que l'on voit extrêmement rarement parce qu'ils se posent quasiment jamais à terre, uniquement pour nicher.
Et les goélands, ils migrent pas, en fait?
Alors, il y a des goélands qui migrent aussi, mais les goélands, chez nous, sont... Il y a des sédentaires, mais de façon générale, de toute façon, presque tous les oiseaux sont plus ou moins migrateurs.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quels sont les oiseaux qui ont tendance à se sédentariser, par exemple?
Un oiseau se sédentarise quand il peut retrouver... sur toute l'année, de quoi se nourrir, de quoi survivre déjà, donc essentiellement se nourrir, qu'il ne fasse pas trop froid, qu'il n'y ait pas de neige ou de glace sur la terre ou sur l'eau.
Ce qui est arrivé en baie d'Audierne.
Voilà, aussi. Il faut aussi qu'il puisse, après, pour se reproduire, avoir suffisamment de nourriture pour élever des jeunes.
Et là, on a vu des oiseaux se sédentariser ces dernières années.
Se sédentariser, disons que...
Rester en baie d'Audierne, quoi. Enfin, longtemps en tout cas.
Oui, ben, c'est parfois difficile à dire, parce que le rouge-gorge que vous avez dans votre jardin, par exemple, ben, vous avez l'impression d'avoir le même toute l'année, et c'est peut-être pas le cas. Parce que, donc ça, ce sont des migrateurs partiels, c'est-à-dire que celui qui s'est reproduit dans votre jardin, il va peut-être aller faire quelques centaines de kilomètres, aller jusqu'en Espagne pour passer l'hiver, et il va être remplacé par un oiseau qui est niché au Danemark ou dans les îles Britanniques, et vous ne verrez pas la différence. Donc c'est parfois difficile de suivre effectivement qui est migrateur, qui ne l'est pas. Et donc on pense tout de suite aux migrateurs, c'est sur les hirondelles qui font des milliers de kilomètres... voir la sterne arctique, qui est un des oiseaux qui migre le plus loin, parce qu'elle passe de l'Arctique justement jusqu'en Afrique du Sud et pratiquement à l'Antarctique.
Et justement, quels sont les oiseaux qui sont migrateurs mais qui passent une saison en baie d'Audierne?
Alors une saison,
les hirondelles.
Alors il y a les migrateurs qui viennent chez nous nicher.
Oui, voilà,
prenez le cas d'hirondelle, l'hirondelle rustique, l'hirondelle de rivage, donc différentes hirondelles qui sont en général en hiver en Afrique de l'Ouest, et elles, donc elles font une grande migration par rapport à la taille de l'oiseau, c'est énorme, et elles vont venir nicher en Europe, chez nous, et en baie d'Audierne, comme ailleurs aussi. En baie d'Audierne, il y a aussi notamment le gravelot à collier interrompu.
Ah, qu'on connaît bien sur Radio Évasion.
Voilà, donc pour lequel on fait pas mal de communication et de pub. Donc ce petit oiseau-là, il vient effectivement au mois de mars, on voit arriver les premiers qui viennent d'Afrique, et voire du Maghreb, ou même certains hivernent en Espagne. Et on commence même à en voir qui restent passer l'hiver chez nous.
Ah! Oui, c'est la question que j'allais poser. Sinon, ils sont partis, là, ou les gravelots?
Oui, les gravelots, la plupart sont déjà partis. D'accord. Mais il en reste quelques-uns. Et donc, ça, ce sont les oiseaux qui vont donc, que nous, on appelle des nicheurs, nos oiseaux nicheurs, donc ils viennent nicher chez nous. Et il y a aussi ce qu'on va appeler, nous, les oiseaux hivernants, qui nichent au nord de l'Europe, Scandinavie, même l'Islande, le nord de la Russie, etc.
Il leur faut du froid, apparemment.
Et là, ils vont donc, comme il y a des explosions d'insectes assez phénoménales dans ces pays-là en été, assez courts, mais ça leur permet de nourrir beaucoup, de nourrir leurs jeunes. Et par contre, en hiver, ils ne peuvent pas s'alimenter, donc ils vont descendre chez nous, profiter de la douceur bretonne
voilà, bien connue,
bien sûr.
Et alors, la baie d'Audierne en particulier, que vous connaissez bien, quels sont ses intérêts pour des oiseaux migrateurs?
Alors, l'intérêt, c'est deux types de milieux. D'abord, on pense aux zones humides, évidemment. Les zones humides sont des endroits qui produisent beaucoup de matière nourricière pour les oiseaux.
Oui, parce que c'est vrai que la baie d'Audierne, pour les gens qui ne verraient pas, c'est une côte, certes, mais derrière, c'est des marais pratiquement sur tout le long, non? C'est ça?
Pas tout à fait. Il y a trois parties en baie d'Audierne, c'est pour simplifier. Tout en bas, c'est plutôt des dunes, des grandes étendues de dunes. Au milieu, ce sont des marais, effectivement, des marais côtiers. Et plus au nord, ce sont les falaises du Cap Sizun.
C'est vrai, c'est vrai. Et donc, alors ces zones humides, ça c'est bien pour les oiseaux, donc, parce qu'il y a des insectes, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant?
Alors, c'est intéressant pour les passereaux, donc qui mangent des insectes, mais c'est aussi, pour les zones humides, ce sont des vasières. Et en automne, elles ont tendance, comme il y a moins d'eau, c'est la période où il y a moins d'eau, les vasières vont se découvrir, et dans ces vasières, il y a énormément d'invertébrés, des petits mollusques, des vers, etc. Et on a toute une série d'oiseaux qui font aussi un petit peu la réputation de la baie d'Audierne, ce sont les limicoles.
Eh oui, les fameux.
Les fameux limicoles, donc tous ces oiseaux qui passent leur temps à se nourrir sur les plages, dans les rochers pour quelques-uns, et beaucoup éventuellement sur les vasières. Et donc le fait que ces vasières se découvrent, ça permet donc à beaucoup de limicoles de faire une halte rentable, on peut dire. Quoi.
Ce sont souvent des échassiers, c'est ça? Enfin, ils ont
des
longues pattes.
Oui, les échassiers ont été, depuis un moment... ça a disparu du vocabulaire des ornithologues, parce que dans la catégorie des échassiers, on mettait aussi bien des hérons que des râledos, que des courlis, et qui ne sont pas tout à fait le même groupe d'oiseaux.
Non.
Voilà, donc on ne parle plus d'échassiers, on parle de limicoles, d'ardides, Des termes un peu plus techniques, mais oui, c'était les échassiers.
Donc c'est en fonction de leur alimentation qu'on les définit, en fait, enfin, qu'on les classe.
Oui, c'est ça, oui. Effectivement, les limicoles, c'est un groupe un peu disparate.
Hein, oui, c'est
on
ça.
On va trouver du vanneau, qui ne ressemble pas vraiment au courlis, l'huître-épi, les bécassos, les barges, enfin, il y a tout un tas de noms qui sont connus, d'ailleurs, tout le monde a déjà entendu parler d'un courlis ou d'un vanneau, mais...
Oui, comme ça. Oui, ouais. Voilà. Après, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble.
Non, et puis, alors on sait, les bécassos, par exemple, tout le monde les remarque. Moi, le bécasso Sanderling, c'est celui qui suit les vagues quand la marée monte, là, pour essayer de récupérer les petits invertébrés qui vont sortir comme ça du sable. Donc ceux-là qui suivent les vagues, tout le monde les connaît. Quand on fréquente les côtes bretonnes, on ne peut pas ne pas les voir.
Ils attrapent les puces de mer, quoi, c'est ça, en fait?
Oui, les puces de mer qui sortent quand la marée remonte. Donc elles sautent comme ça hors du sable, où elles attendaient sagement le retour de la marée. Et donc là, ils profitent pour picorer. Ces oiseaux-là n'ont pas un bec très long, ils ne peuvent donc pas aller fouisser dans le sol pour trouver de la nourriture. Donc ils prennent ça au vol, en sortant.
Et est-ce qu'il y en a qui sont, oui, je suppose, végétariens strictement et qui sont intéressés par la baie d'Audierne aussi?
Alors, par la baie d'Audierne, les végétariens, il y a les canards, évidemment, beaucoup qui viennent en hivernage notamment. Donc, les canards se nourrissent en général la nuit sur les pâtures et reviennent s'abriter après dans les zones humides sur les plans d'eau.
Et donc, les canards, ils broutent alors en quelque sorte, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors. Et donc, de l'herbe, pas des algues, si, parfois.
Des algues, ça arrive, oui. Mm-hmm. Les bernaches, par exemple.
Les oies bernaches.
Les oies bernaches, oui. Donc, ces oiseaux qui viennent chez nous aussi en hiver. Donc là, en baie d'Audierne, pas trop, mais ça, c'est plus la rivière de Pont-l'Abbé. Ce sont les estuaires, un peu. Le golfe du Morbihan aussi, la rade de Brest. Bon, il y a énormément de zones un petit peu fermées, comme ça. Et les bernaches mangent des algues vertes, effectivement.
Enfin,
il en faudrait
bernaches.
Plus
ouais,
sur
ça.
Certains secteurs.
Ouais.
Mais non. C'est pas unique, leur seule alimentation, mais c'est vrai qu'elles en mangent, oui.
Et pour la baie d'Audierne, j'imagine que l'arrière-pays agricole, enfin le type d'agriculture pratiquée est important pour la santé des oiseaux.
J'allais dire, malheureusement, l'agriculture a un petit peu disparu d'une partie des zones. L'agriculture traditionnelle, donc extensive, qui permettait avant d'ouvrir les milieux, de maintenir les milieux un petit peu ouverts. Et donc là, une des problématiques qu'on a, pas seulement en baie d'Audierne, mais un petit peu partout dans les fonds de vallée, c'est que ces endroits-là qui ne sont plus rentables pour l'agriculture se ferment. Il y a donc du prunelier qui s'installe. Prunelier peut avoir son intérêt, mais pas partout, quoi. Et donc, on a des prairies humides ou des zones de dunes qui, auparavant, étaient favorables aux oiseaux accueillantes et qui, maintenant, sont devenues un petit peu moins accueillantes.
Pour ces oiseaux-là, en tout cas, oui.
Pour
c'est
ces
ça.
Oiseaux-là.
Ouais.
Pour, ouais. Et c'est...
Il y a carrément des espaces qui se transforment en forêt, peut-être pas, quand même, non?
Alors, les forêts en baie d'Audierne...
Ouais, pas encore.
Pas encore, on a quand même un peu le temps. Ouais. Mais alors, il y a des espèces de forêts, effectivement, dans la forêt du Cranou, oui, bien sûr.
Mais en tout cas, pour les oiseaux de marais ou marins, c'est, oui, c'est
alors,
pas forcément idéal.
Alors, il y a aussi un milieu qui, pour la migration, est intéressant, ce sont les dunes, ce qu'on appelle les dunes fixées, un petit peu, donc ces étendues qui sont derrière la dune blanche, le petit bourrelet qui a en bord de plage, là. Donc derrière, il y a des étendues de dunes, notamment, par exemple, en baie d'Audierne, entre la Torche, Tronon et les premiers marais. Et c'est vraiment extraordinaire de voir certains jours, début septembre, il y a des centaines d'oiseaux qui se baladent là-dessus, quoi. Donc ça vole de partout, on a des traquets moteux, des bergeronnettes printanières, tout un tas d'oiseaux comme ça, des passereaux qui vont se nourrir, eux, des insectes qui sont assez nombreux sur ces milieux un peu secs.
Ah oui, oui. Des insectes de dunes.
Des insectes de dunes, oui, pour trouver ailleurs.
Spécifiques, ah ouais, non,
c'est
pas
vrai
spécifiques.
Il y a certains qui sont spécifiques, il y a d'autres qu'on retrouve un petit peu partout, mais c'est vrai que ces milieux-là sont assez favorables à des milieux un peu chauds, secs. On a des remontées méditerranéennes quasiment en baie d'Audierne, hein, donc autant sur la végétation que sur les insectes. Et donc, effectivement, ce sont des zones qui sont assez riches en invertébrés. Et les oiseaux en profitent.
d'où l'intérêt de préserver les dunes aussi. Comment, alors j'en ai parlé très vite fait, mais ils sont suivis, donc cette station de bagages de Trainvel, racontez-nous un peu comment ça se passe, est-ce qu'elle est là tout le temps, qu'est-ce qu'on y fait?
Elle est là uniquement pour étudier la migration des... Normalement, ce seront les passereaux paludicoles, c'est-à-dire les passereaux des marais. Voilà, donc c'est une station qui a été créée à l'époque par Bruno Barguin, qui était salarié à Bretagne Vivante et qui habitait sur place à Trainvel. Et donc, les premiers bagueurs qui sont arrivés ont vu tout de suite que c'était une zone très très intéressante pour le passage des oiseaux. Et donc, en 88, Bretagne Vivante, qui s'appelait à l'époque la SEPNB, hein, Société d'études et de protection pour la nature en Bretagne, donc, a décidé de créer une station de bagages. Et ses particularités, c'est donc une station qui est ouverte pendant 4 mois de l'année, ce qui est assez exceptionnel en France, hein, donc c'est une des seules à avoir 4 mois de pratiquement tous les jours, quand la météo le permet.
Donc de quand à quand alors?
Elle ouvre début juillet et elle ferme au 31 octobre.
Pour la migration justement d'automne.
Voilà, donc ça permet de suivre effectivement toute la migration. Début juillet, ce sont plutôt les nicheurs de la baie. Et puis, petit à petit, on a les phragmites dont on parlait. Il va y avoir un pic de migration entre le 10 et vers le 10 août, à peu près. Donc, on va avoir énormément, énormément de ces oiseaux-là qui vont passer. Donc, la migration est déjà très active à ce moment-là. Et après, on va passer à des espèces un peu plus exotiques, comme le gorgeux bleu, les martins pêcheurs qui vont venir aussi en fin août. Et là, actuellement, on a des dizaines et des dizaines de pouillots véloces, hein, qui viennent du nord de l'Europe, hein, et on en prend des dizaines par jour.
Ah oui, donc en fait, vous les attrapez. On est obligé de les attraper, hein, pour les compter, oui, on ne peut pas faire autrement. Alors, en étant des filets, c'est ça?
Oui, l'idée n'est pas forcément de les compter, mais même si, évidemment, ça donne une idée de du flux migratoire, parce qu'on peut pas, on les attrape pas tous non plus.
Bien sûr.
Voilà, et... Mais l'idée est plutôt de les identifier individuellement en mettant une petite bague qui est fournie par le muséum. On leur message, voilà.
Muséum national d'histoire naturelle, qui supervise.
Voilà,
ouais.
Bien sûr. Et oui, il y a des programmes, différents programmes de bagages qui existent sur la station. Et donc, on va leur mettre une bague dans l'idée, après, de les recapturer. Et donc, il faut en baguer beaucoup pour en capturer un petit peu.
Ouais.
Et donc là, au cours d'une saison, il y a pratiquement, on est dans les 7, 8 000, 10 000 parfois oiseaux capturés dans la saison.
Et vous êtes combien il y a un salarié au moins, c'est ça?
Alors,
de Bretagne Vivante
Un salarié sur 4 mois, un service civique également. Et puis, ça marche aussi beaucoup avec les bagueurs bénévoles.
Dont vous faites partie, je suppose, non?
J'étais jeune...
Vous avez eu fait.
Oui. Disons que les locaux, parce que j'habite tout à côté, j'ai jamais été bagueur. Moi,
Oui, parce que c'est un savoir-faire.
C'est un savoir-faire, c'est un diplôme aussi. Ouais. Donc on peut, comme moi je l'ai fait, apprendre à démailler, c'est-à-dire sortir les oiseaux du filet, les mettre dans des sacs pour pas qu'ils se blessent, effectivement, apprendre à manipuler les oiseaux. Mais pour le bagage, il faut avoir des connaissances techniques qui sont assez pointues, et ça s'apprend petit à petit. Et cette station de bagage, par exemple, un de ses avantages, le fait de fonctionner si longtemps, c'est justement, ça devient un centre de formation pour beaucoup de jeunes bagueurs.
Et quelles sont les observations? Quelles sont les observations de la station ces dernières, deux dernières saisons par exemple? Est-ce que vous avez remarqué est-ce qu'il y a des tendances?
Il y a des tendances. Alors c'est d'une saison à l'autre, il y a déjà beaucoup de variations parce que il peut y avoir un été catastrophique avec une reproduction qui est vraiment très mauvaise pour les oiseaux. Donc on aura peu de jeunes produits. Évidemment, ça va se sentir dans les flux migratoires qui vont passer par chez nous. Donc d'une année à l'autre, évidemment, il y a pas mal de variations suivant les conditions météo. Après, c'est sur des dizaines d'années, c'est justement l'intérêt d'avoir cette station depuis 88. Donc ça permet d'avoir des données qui est ce qu'on appelle robuste, donc d'avoir vraiment des tendances globales. On voit par exemple qu'on parlait du pic de migration des phragmites des joncs. On voit qu'il y a des stratégies maintenant chez les oiseaux qui commencent à changer.
raison du changement climatique.
Au lieu d'avoir un pic très, très, très net, très, très fort, on a un pic qui est beaucoup plus émoussé, mais par contre, sur une période qui s'étale davantage.
Ils étalent leur migration, c'est ça?
Oui, donc ouais. Après, ce qui... il faudrait voir ça en corrélation aussi avec les insectes qui sont... parce que évidemment, comme ils ont tendance à suivre l'évolution des insectes, il ne faut pas qu'ils arrivent en migration et qu'ils aient plus à manger,
bien sûr.
Soit trop tôt ou trop tard. Donc voilà, il y a des adaptations conjointes. Et on a de façon globale des dates de migration qui avancent dans l'année, qui sont un peu plus tôt qu'avant.
On aurait pu croire l'inverse.
Alors la migration est plus étalée, ça veut dire aussi qu'il y en a qui traînent. Et puis, dans les migrations, il y a aussi des oiseaux qui ne viennent plus chez nous, par exemple. Ça, c'est lié au réchauffement climatique, mais c'est vrai qu'une oie, les migrations, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et si les oiseaux peuvent éviter, ben, ils ne le font pas. Quoi. Donc les oiseaux qui nichent vraiment très très au nord, dans les toundras arctiques, au lieu de descendre hiverner chez nous, c'était le cas par exemple, je cite le garrot à œil d'or ou les zédères, donc c'est ces canards-là qui venaient régulièrement chez nous, maintenant on en voit beaucoup moins parce qu'ils n'ont plus besoin de descendre aussi bas, ils peuvent passer l'hiver plus au nord. Dans des zones qui ne sont pas ni gelées, ni complètement recouvertes de neige.
Oui, aussi bien, ils ne vont plus migrer, quoi, en fait.
Voilà, on ne va plus les voir, c'est triste pour nous. Alors, ce qu'il ne faut pas dire, évidemment, c'est qu'on a tendance à dire on ne les voit plus, c'est qu'ils ont disparu.
Non,
ils sont là. Ce n'est pas aussi simple que ça.
Oui, de toute façon, l'observation des oiseaux migrateurs, c'est tout un réseau, hein, bien sûr.
Oui, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Bernard Tréverne. On vous recevra une autre fois pour la suite
plaisir.
Des aventures des oiseaux migrateurs. Et merci à Bretagne Vivante, dont on peut réécouter les émissions sur le site de Radio Évasion.